bien de temps en temps d'enlever le masque. Bonjour à chacun, mais je voudrais dire bonjour particulièrement à ceux qui ne sont pas là. Étant bien souvent derrière mon ordinateur et toute seule, je pense à nos frères et sœurs qui ne peuvent pas venir aujourd'hui. Et je voudrais pouvoir leur dire d'abord qu'ils nous manquent et que nous espérons que bientôt nous serons tous ensemble. Donc, c'est un petit peu dans mon introduction. Vous avez vu que ce matin, notre frère, notre pasteur, nous a donné un peu le décor de ce qui se passe dans le monde. Et moi, je vais essayer de parler du monde, mais aussi de parler de nous. La première chose que j'aimerais montrer, aujourd'hui, comme il a été dit, nous avons un culte sur la mission. Notre sujet porte sur l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Dans la Bible, et on les appelle les non-juifs, les païens, les nations. Dans notre monde moderne aujourd'hui, nous les appelons peuples sans accès à l'Évangile. On parle aussi de la fenêtre 10-40. Alors, comme je sais que vous êtes tous de géographie, je me suis dit, moi, j'avais besoin d'une petite image pour vous montrer exactement où se situe réellement ce que l'on appelle les peuples non atteints. Il nous a été rappelé, là, que c'était un endroit stratégique par notre frère, que cela se situe entre le 10e degré de latitude nord au 40e. Et il nous a été rappelé que 80% de la population vivait dans ce petit rectangle. Enfin, il n'est pas si petit que ça, je peux vous l'assurer. Voyageant pas mal. Cette fenêtre est d'une importance stratégique pour la mission, d'abord, c'est vrai. Et dans cette zone géographique, se trouvent, entre autres, beaucoup de peuples qui sont pauvres. 80% sont des pauvres. 80% sont des gens qui n'ont pas plus de 1,50 $ pour vivre par jour. Dans ce rectangle, vous avez 50 grandes villes les moins évangélisées du monde. Ce sujet de peuple non atteint et sans accès à l'Évangile peut nous amener bien sûr très très loin. Et rassurez-vous, ce matin, je ne suis pas là pour vous encourager à partir au Bangladesh, en Inde, particulièrement avec le Covid actuellement, ou au Pakistan. Ce n'est pas mon premier sujet ce matin. Il a été donné par notre frère beaucoup de données, beaucoup de nécessités. Mais pour moi, me semble-t-il, il nous faut aussi regarder un tout petit peu plus proche. Plus sérieusement, je crois profondément que nous avons aussi autour de nous des peuples non atteints. Un grand nombre de personnes qui n'ont aucune connaissance de qui est Jésus-Christ, qui vivent sans l'assurance de l'éternité, de la vie éternelle. Quand j'avais terminé mes études à Nogent, quelques amis m'ont encouragé à partir en Algérie pour faire de l'évangélisation. J'avais, semble-t-il, d'après eux, le bon profil. Et j'avais été faire un voyage de découverte, donc dans les années 78-79, pour me positionner. Et lorsque j'étais là-bas, un frère est venu vers moi. Il m'a demandé, mais d'où viens-tu, toi, exactement ? Et j'ai dit, je viens de Paris, la belle ville, la tour Eiffel, blablabla. Et il m'a interpellé sur place. Et il m'a dit texto, j'ai vécu 8 ans en France. Et je suis restée dans l'ignorance du message de Jésus. Personne n'est venu m'annoncer l'évangile. Et lorsque je suis rentrée chez moi, en Algérie, des gens qui n'ont pas eu peur de m'annoncer l'évangile sont venus vers moi. Et j'ai accepté le Christ. Alors, il n'y a pas de culpabilité dans ça. Hein? C'est simplement pour vous dire la réalité. Et comme ça est né pour moi le projet de l'ami, témoigner de Jésus-Christ aux musulmans. J'aimerais vous parler de quelqu'un d'autre, pour certains qui l'ont connu personnellement, ou en tous les cas ont lu ses livres, Alain Choiquier. Alain Choiquier, évangéliste, pasteur d'origine musulmane, musulmane, puisqu'il venait d'Algérie. Lui aussi racontait, je suis venu au monde dans une famille qui n'était pas chrétienne. Après avoir grandi en Algérie et suivi des études de sciences politiques, et je me dirigeais vers une vie active lorsque Dieu m'a arrêté. Et j'ai reçu l'appel de Dieu pour annoncer l'évangile comme évangéliste. Mais là, il ne dit pas pour les musulmans. Et c'est ce qu'il a fait en région parisienne et dans les pays francophones jusqu'à son décès en 2003. Lors d'une conversation personnelle avec lui, et parlant de la nécessité, vers la fin de sa vie, parlant de la nécessité de l'évangélisation parmi nos amis nord-africains, voilà ce qu'il m'a dit. Il a pris l'image du boomerang, vous savez, et il m'a dit, Dieu nous a envoyé ces peuples, ceux qui étaient un peu extraordinaire dans une période où on parlait de l'extrême des deux parties de la France ici politique. Il nous les a envoyés pour que nous puissions leur apporter l'évangile. Parce que nous avons manqué pendant des années et des années d'annoncer dans leur propre pays l'évangile. Et cela m'a fait beaucoup réfléchir, je dois vous l'avouer. Je pourrais encore et encore vous parler du monde lointain. Je fais partie d'un conseil international qui s'occupe justement de l'implantation des églises dans cette partie du monde. Mais j'aimerais vous encourager et j'aimerais m'arrêter avec vous sur le texte de l'apôtre Paul qui nous rappelle et qui nous encourage à entrer en action dans le livre des Romains, au chapitre 10 et au verset 12 jusqu'au verset 15. J'ai pris la version de second 21, je crois. Voilà, et vous avez le texte aussi sur vos écrans ou ici. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils sont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annonceront-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Dieu est au départ de toute chose. Tout d'abord, l'apôtre nous fait remarquer que Dieu ne fait pas de différence entre le juif ou le non-juif. Tous ont le même Seigneur et toute personne qui fait appel au Seigneur sera sauvé. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une certitude. Dès le commencement de la création du monde et jusqu'à ce jour, Dieu aime et s'intéresse à chaque personne qu'il a créée. Dieu a toujours voulu communiquer avec chacun et chacune et se faire connaître. Dieu veut que toute femme et tout homme viennent à lui et soient sauvés. Plusieurs textes et plusieurs versets nous parlent de l'étranger, du non-juif, des nations, c'est-à-dire tous ceux qui ne connaissent pas et n'ont pas eu la possibilité de choisir et de décider de suivre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Si l'étranger, le non-juif, a presque toujours une place de choix dans la Bible, c'est parce que Dieu s'est soucié de tous ses peuples, qu'il les aime et qu'il veut se faire connaître à eux. Rappelons-nous quelques exemples. De Rahab, la femme qui cache les espions. De Naaman, l'officier syrien atteint de la lèpre et qui veut voir la guérison. De l'histoire de Ruth, la Moabite. De l'Éthiopien qui demande le baptême à Philippe. Et tant d'autres, et tant d'autres. Rappelons-nous aussi divers textes où Dieu montre son souci pour l'étranger. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez pas. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, dit-il à Ésaïe, et pour être la lumière des nations. Jésus lui-même nous rappelle qu'il était étranger. Alors, le terme étranger a beaucoup de significations et je ne voudrais pas passer trop de temps sur ça, mais pour vous dire combien Dieu, et il nous a été rappelé cela tout à l'heure, a un regard spécifique sur ceux et celles qui ne le connaissent pas, sur ceux et celles qui n'ont pas la possibilité de venir à lui. Dans ce chapitre 10, des Romains, après avoir exposé le merveilleux plan divin de salut, après avoir dirigé les regards des lecteurs vers un monde perdu, corrompu dans le péché, Paul s'arrête aux versets 14 et 15, saisi, angoissé, pour poser ces quatre questions, ces quatre comment. Comment ? Comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Comment entendront-ils si personne leur annonce? Comment annonceront-ils si personne n'est envoyé? Quatre flèches divines qui doivent pénétrer la conscience de chacune et de chacun d'entre nous en tant que chrétiens. Parce que l'apôtre nous rappelle que nous sommes personnellement, nous-mêmes concernés. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Un peu plus loin, Paul dit « Quiconque invoquera, si jamais nous n'étions pas nous-mêmes convaincus, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé », dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire sauvé du péché, sauvé du lac de feu et de soufre, sauvé pour l'éternité. Et comment croiront-ils? Et en face de nous aujourd'hui, des centaines de millions d'hommes et de femmes ne le connaissent pas. Ils n'ont aucun moyen de le connaître. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Celui dont ils n'ont pas entendu parler, c'est Jésus. Nous sommes si souvent sourds à l'appel de Dieu. Si souvent sourds. Dieu attend notre réponse, mes amis. Comment croiront-ils en lui ? Il est indéniable que les gens ne pouvaient pas croire en un être dont ils ne connaissaient pas l'existence. Et l'objection implicite de l'apôtre était qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que les gens viennent croire s'il n'y avait personne. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Au-delà de nos frontières, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et puis notre pasteur l'a rappelé, des centaines de millions de gens sont sans espoir, sans même la parole. Et peu de personnes, comme il nous a été rappelé, vont vers eux. Comment annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? La foi provient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous rappelle la parole, la Bible. Il est donc indispensable que cette parole efficace soit proclamée à travers le monde. Qu'ils sont beaux, nous dit l'apôtre Paul, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Des fois, j'essaye d'imaginer dans ma tête comme ça, et quand je vois ce verset, je me dis, mais c'était des routes poussiéreuses, les gens, ils avaient des sandales pour marcher, qui sont beaux les pieds, ça ne devait pas être si évident que ça. Et pourtant, la parole nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la nouvelle, la bonne nouvelle. Pas n'importe quelle nouvelle. La nouvelle de l'éternité avec Dieu, de connaître Christ. Dieu appelle et envoie ses messagers, des prophètes, des apôtres, des prédicateurs, des enseignants, des évangélistes, des missionnaires. Les messagers sont une bénédiction de Dieu dont le monde a besoin. Ce sont ceux qui ont accepté le message de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ et qui désirent faire connaître, de faire connaître Christ. À nous, il nous est demandé de répondre favorablement à ce message de l'apôtre et de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au loin, comme auprès. Dieu nous demande de nous sentir concernés par les autres. Et combien sont beaux les pieds. Oui, si chacun d'entre nous ne voulait être là que là où le Seigneur nous demande d'être, alors nous répondrions à l'appel. L'apôtre nous rappelle l'importance, là encore, de notre rôle, ainsi que de la mission de l'Église, cette mission suprême qui est d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile nous est annoncé, il a été proclamé au monde dès les premiers jours, après le départ du Christ. Mais toute bénédiction dépendait aussi de l'obéissance de la foi. Quand Paul écrit cette épître, il souligne qu'en tant que nation, Israël était demeuré incrédule. Et Paul rappelle que non seulement cette annonce était pour le peuple juif, mais aussi pour les païens, et que celui qu'il fallait invoquer pour être sauvé, c'était justement celui qui était venu vers nous pour nous apporter cette bonne nouvelle du salut et de l'éternité avec lui. Mais revenons à Ésaïe, par exemple. Ésaïe nous donne un exemple super dans le livre d'Ésaïe. Et il nous parle de son propre appel. Il est d'abord saisi par la sainteté de Dieu et tombe par terre. Mais la grâce le relève. Alors, à l'appel de Dieu, qui enverrai-je et qui ira pour nous ? Il va pouvoir répondre, « me voici, envoie-moi. » Pour que les hommes soient sauvés, comme nous l'avons dit plusieurs fois, il faut qu'ils entendent l'Évangile, mais que nous soyons envoyés. Te sens-tu appelé ? Te sens-tu appelé à aller ? Moi, je ne peux pas répondre pour toi. Mais c'est une question importante. Prions le maître de la moisson d'envoyer ses ouvriers dans sa moisson. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Mais soyons aussi prêts à être l'exaucement de cette demande. L'appel est là, ce sont les réponses qui manquent. Un appel est la conséquence normale d'un besoin connu et d'une juste reconnaissance du cœur envers celui qui nous a sauvés. Il est important que non seulement notre cœur, mais aussi notre personne tout entière soit totalement engagée pour notre Seigneur. Qu'étreint par son amour, pour parler de lui, nous soyons des porteurs de bonnes nouvelles. Il y a ce que j'appelle la vocation de la foi. Il n'y a pas d'invocation sans la foi, pardon. Un message, la foi qui sauve, c'est un message à croire. Philippe et l'Éthiopien, c'est un message à recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est une vie d'obéissance initiale et continuelle dans une réponse de foi. C'est une vie d'obéissance, mes amis, et une vie de persévérance jusqu'au jour où tu me rappelleras à toi, Seigneur. Mais avant d'aller trop loin de chez nous, commençons par regarder et nous soucier des personnes qui vivent autour de nous. Voici quelques exemples de tentations qui nous arrivent si souvent. La première, c'est la perspective de l'annonce de l'Évangile et qui est absente de nos préoccupations. Comme un repli sur une pratique somme toute routinière de la foi, on continue de faire ce que l'on a toujours fait, ce qu'on fait toujours. Quand la question de la mission ou du témoignage est posée, la réponse est « on ne voit pas, on ne perçoit pas ». Ou certains rajoutent « d'ailleurs les gens ne s'y intéressent pas ». La deuxième tentation, on se replie sur son réseau, son groupe d'appartenance, son groupe d'affinité quelque part. On reste entre nous. Ce n'est pas si mal après tout, non ? Certains ont peur d'un environnement qui leur paraît dangereux. Le souci de la préservation de la foi familiale en premier. On laisse à d'autres une évangélisation plus large. Le danger de cette tentation, c'est de s'enfermer, de ne plus être porteur de l'Évangile qui est d'être annoncé à tous. Une troisième tentation plus subtile, celle que j'appelle le christianisme life, un peu comme le coca life, c'est pas vraiment du coca, hein, vous savez, et consensuelle, qui n'aime pas beaucoup l'abrupte de la foi. Elle est la promotion d'un christianisme qui ne prend pas sa place dans la société, qui n'ose pas aller à rebousse-poil. Donc, on ne parle pas de sa foi. Enfin, et le dernier exemple, Un quatrième exemple, c'est l'inverse de la précédente. C'est-à-dire que l'on fait de l'évangélisation comme une marque, le marketing, stratégie commerciale, part de marché à prendre, clients à reconquérir et à fidéliser. N'oublions pas que l'appel à témoigner n'est pas un slogan, ni un slogan, ni une consigne facile. Il est l'ordre d'un combat spirituel, d'une lutte à mener contre nos doutes, nos pesanteurs, nos peurs et notre volonté de mener seule notre barque. Nous avons sans cesse à nous remettre comme des serviteurs devant la parole qui nous dit « Allez, et je vous envoie ». Et l'Église dans tout ça, l'Église. Laissez-moi vous dire qu'une Église doit se laisser évangéliser pour devenir évangélisatrice. L'Église ne saurait se présenter simplement comme une société religieuse, et vous le savez, et nous le savons. Et l'exemple de l'histoire de l'Église du Tabernacle nous le rappelle. Vous savez, moi, quand je suis venue toute jeune dans cette église, on parlait de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas si je savais où ça se trouvait sur la carte. Mais l'église était porteur. Elle était évangélisatrice. L'église ne saurait se présenter simplement, comme je l'ai dit, comme une société religieuse, à témoigner de l'amour de Dieu dans un service concret. Une église qui entre dans la dynamique d'une évangélisation renouvelée est d'abord une église qui se laisse saisir par le Christ et travailler par son esprit. L'évangélisation est d'abord une affaire d'élan, de souffle, d'ardeur missionnaire, de vigueur de soi. Pour vivre cette dynamique missionnaire d'une église qui se laisse évangéliser et qui évangélise en ravivant sa foi, par une invitation à entrer dans une vie spirituelle plus profonde, plus assurée, plus donnée. Donnons plus de place dans notre vie personnelle à la prière. Nourrissons-nous davantage du pain de la parole, qui est la Bible. Repensons dans toutes nos notre dispositif vers une dynamique de témoignage de l'évangélisation. D'ailleurs, Jésus lui-même, si nous regardons, et il dit, allons ailleurs, à Capernaum. Il dit à ses disciples, allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que je puisse proclamer aussi l'évangile. Rappelons-nous que l'évangile est destiné à tous. Nous sommes mandatés à chercher de nouvelles voies pour apporter l'Évangile. Et enfin, sachant utiliser le porte-à-porte, mais ça, vous connaissez tout ce qu'il y a à faire, porte-à-porte, cours alpha, invitation à des petits déjeuners, etc., etc. Quelle spiritualité, je vais terminer par ça, quelle spiritualité pour une évangélisation aujourd'hui. Ce n'est pas facile de gérer certaines contradictions. Il nous faut rester perspicace et localiser sur l'essentiel, comme s'investir personnellement et se mettre au service des autres. Le Christ nous envoie. Il nous a remis son évangile et son message de salut. Il passe par nous. Il passe par nous. Par notre intelligence, notre inventivité. Vivre la hâte de l'annonce et faire preuve de patience. On ne peut témoigner sans passion, sans être habité par ce désir pressant de faire connaître le Christ et d'annoncer l'Évangile. Mes amis, combien aujourd'hui sont ceux qui sont morts sans connaître l'Évangile. Rappelez-vous, il y a dans le ciel de la joie pour juste une seule personne, une personne qui se repent et qui vient à Christ. Joindre la force de la conviction au respect de la liberté des autres, bien évidemment. Il ne faut pas taire ce qui nous habite, mais il nous faut aussi respecter dans la façon dont nous proclamons, nous témoignons. Je sais parce que je le vois de chez moi, ceux et celles qui prennent du temps, qui sont partis de qui sont membres de notre Église et qui tous les mercredis sont là à partir de 10 heures et souvent à 9h30 et souvent jusqu'à 7 heures le soir parce qu'il faut nettoyer, parce qu'il faut ranger, parce qu'il faut donner, parce qu'il faut être à l'écoute, parce que je les vois. Parfois je viens un peu les embêter, mais ils sont là. Et ceux qui ont travaillé le samedi, qui ont préparé à manger. Regardez comment Dieu fait. Je vais vous raconter une toute petite histoire. Voilà que lors de la dernière récolte de nourriture dans les magasins, je crois que c'est Jude qui était en train de ramasser, enfin, de prendre, ramasser, le terme n'est pas très joli, de la nourriture. Et une femme s'est approchée de lui. Il lui a dit, mais vous faites ça pourquoi? Et Jude a témoigné en disant, c'est pour l'Église, voilà, on ramasse de la nourriture, etc., etc. Et cette personne a dit, est-ce que je peux venir vous aider? Je vais acheter de la nourriture, mais est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux vous aider? Et bien sûr, Jude a dit, bah, écoutez, on fait à manger le samedi, si vous voulez venir nous aider, il n'y a aucun problème. Et je vais vous dire qui était cette personne, parce que pendant un certain moment, personne ne savait qui était cette personne. J'ai eu un appel d'une amie personnelle qui m'a dit, mais tu te rends compte, mon amie qui est chef cuisinier, elle est cuisinière, donc chef dans un grand restaurant, vient au tabernacle. Elle n'est pas chrétienne, elle est ouverte à l'évangile, mais elle a tellement été touchée par cette action qu'elle a dit, je ne peux pas rester sans rien faire. Et elle est venue ici, personne ne savait. Je crois que j'ai dû le dire à Philippe au début, lui dire, tu sais, voilà, bon, il ne faut pas trop aller trop fort avec elle parce qu'elle est ouverte, mais voilà. Et elle est venue tous les samedis, mes amis, tous les samedis. Et elle faisait de la petite cuisine parce qu'elle est un grand chef renommé. Mais elle faisait ce qu'on lui demandait de faire. Et elle s'est attachée à ce groupe. Et elle a vu le témoignage de ceux qui étaient là le samedi. Voyez-vous, personne n'avait été faire une évangélisation explosive dans ce magasin. Et je suis descendue rencontrer notre amie. Et j'ai pu parler avec elle. Et puis l'équipe l'a entourée. Et maintenant, elle a hâte qu'on revienne vite à la prochaine ouverture. Vous voyez comment Dieu fait? Il nous suffit de parler. Il nous suffit de dire. Il nous suffit d'être. Être. Et pour terminer mon message, pour terminer, je voudrais souligner la force de la joie. La joie dans le témoignage de l'Évangile qui nous a été donné. La joie est communicative et attractive. Nous savons que la joie de croire et de vivre dans le Christ est un don du ressuscité. La joie, mes amis, c'est un don et un fruit de l'Esprit. C'est une joie qui nous fait dire à tous qu'elle nous désaltère, que cette source que nous avons trouvée, c'est une source d'eau vive. Elle est donnée à tous gratuitement. Tu as soif? Pas de problème. Viens et bois. Viens et bois. Toi aussi, et ton cœur, à ton tour, sera dans la joie. Dans notre vie d'évangélisation, soyons tous des témoins de cette joie. Amen. Et je voudrais juste terminer par la prière, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, tu connais toutes choses. Tu sais ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Nous le savons, nous, personnellement. Mais Seigneur, tu sais aussi ce que tu nous demandes. Et tu sais, tu poses devant nous les comment. Comment, comment, comment. Et tu nous appelles, Seigneur, à y répondre. Que ce soit loin, que ce soit proche, Seigneur, aide-nous à être des témoins vivants, efficaces. Que nous puissions aussi réjouir ton cœur. Et nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont loin de toi, que ce soit par la distance, ou que ceux qui sont proches de nous par la distance aussi. Te prions, Père. Te prions aussi pour ceux de nos familles qui ne te connaissent pas. Tu connais la vie de chacun ici dans l'Église. Tu connais les difficultés. Tu connais les problèmes. Notre Dieu, nous voulons tellement te remercier parce que tu t'es fait toi premièrement connaître à nous. Seigneur, vraiment béni soit ton nom. Qu'à toi revienne toute la gloire, la puissance. Le règne au siècle des siècles. Amen.